nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui deux DVD sur le même homme, le professeur Potier. À tous ceux qui s'intéressent ou veulent s'intéresser aux langues amérindiennes et à la linguistique, je conseille vivement l'écoute de ces deux DVD, deux entretiens, dont vous obtenez l'intégralité sur notre site. Ces deux DVD, comme je disais, présentent la vie et la pensée de l'éminent professeur Bernard Potier. Bernard Potier, linguiste hispaniste, né en 1924 à Paris, il est docteur honoris causa de pléthore d'universités dans le monde et bien sûr dans les pays hispaniques tels que le Venezuela ou encore l'Espagne. Il est membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres depuis 1997 et en a été le président en 2007. Bernard Potier est une figure emblématique de l'américanisme en France. Pourquoi ? Comme vous pourrez l'entendre dans l'entretien qu'il accorde au directeur de recherche Francesc Queixalós et à Marc Touvenot. Eh bien, il forme toute une nouvelle génération de chercheurs dès les années 50 à l'étude des langues amérindiennes à un moment où elles perdaient un petit peu de sa lumière. Il nous raconte par exemple qu'étudiant, il avait commencé par faire des études d'espagnol à l'université et que dès le début, il s'était intéressé à la philologie espagnole, c'est-à-dire à l'histoire de la phonétique et de la morphologie. Il étudie aussi le portugais et le français, ce qui lui permet d'étudier les langues romanes et de s'intéresser de plus en plus aux racines et aux fondamentaux de la discipline. Au hasard des librairies, il découvre des langues beaucoup plus lointaines et se prend d'amour pour les langues d'Amérique. Comme dans toutes les grandes histoires, il y a toujours des affaires humaines, il se demande s'il ne devrait pas aller voir Marcel Bataillon, qui à l'époque travaille au CNRS, et octroie des bourses pour partir et connaître les langues d'ailleurs. Alors c'est ce qu'il fait, et il obtient une bourse, la seule qu'il ait jamais eue, comme il le dit, en 1959, et peut donc partir au Paraguay. Le Paraguay, l'immensité, l'outre-Atlantique, alors il part dans le Chaco. Il reste ébahi par la langue amérindienne locale, le Guarani. Lorsqu'il revient bouleversé, il se demande s'il y aurait une possibilité d'animer un séminaire sur les langues amérindiennes, et c'est ce que l'Institut des hautes études de l'Amérique latine accepte. Nous sommes en 1964. Peu de temps après, il crée une équipe au CNRS qu'il dirigera jusqu'en 1985. L'équipe de recherche est baptisée Ethnolinguistique amérindienne. Elle regroupe dès l'origine de jeunes chercheurs linguistes passionnés par les langues des Indiens américains. L'équipe aujourd'hui est devenue le CELIA, le Centre d'études des langues indigènes d'Amérique, un centre qui publie la revue Amérindia. Sans trop vous faire attendre, je termine juste par vous dire que cette communauté scientifique créée par le professeur Potier a permis à la recherche française une présence importante dans un domaine qui avait été abandonné après de glorieux antécédents et de glorieux noms, dont Paul Rivet et Lucien Adam. Je vous propose donc deux DVD, deux entretiens qui vous permettent de choisir entre un entretien plus personnel avec Francesc Queixalós sur la vie de Bernard Potier pour son goût des langues amérindiennes et un second beaucoup plus technique sur l'abstraction fondamentale, les mathématiques et la passion du linguiste pour les problèmes théoriques qu'il met en image et en dessin, ce qui fait sa spécificité. Voilà, vous avez ainsi de quoi mûrir vos connaissances. Mais avant de vous souhaiter bonne écoute, je vous propose d'écouter une brève interview de Bernard Potier qui répondait à mes questions. Monsieur Potier, merci beaucoup de répondre à ces quelques questions. Je voulais tout d'abord vous demander comment la passion de la linguistique et de l'Amérique vous est venue ?
Eh bien, comme toujours, c'est un ensemble de hasards. Au lycée, j'étudiais l'espagnol. C'est une langue qui m'a plu tout de suite. Et puis en même temps, j'avais un penchant pour les mathématiques. À première vue, il n'y a pas beaucoup de lien entre les deux, mais j'ai vu ensuite que les choses pouvaient se combiner heureusement. Étant donné que l'espagnol ouvrait la voie vers l'Amérique, d'une part, et puis étudier assez profondément une autre langue fait que l'on compare avec la sienne et qu'on commence un premier degré de grammaire comparée, si j'ose dire. Et à ce moment-là, la notion de système, de différence, de similitude apparaît. Et plus tard, alors, c'est un autre hasard, c'est la rencontre avec des livres, d'une part, qui m'ont intéressé, d'anciennes grammaires, et d'autre part, un enseignement. J'étais étudiant à la Sorbonne, et en 1943, j'ai eu la chance de suivre les cours de Gustave Guillaume, qui est un linguiste original, qui enseignait donc à l'École pratique d'autres études, avec un petit nombre d'élèves, et avec un contact direct, dans une petite salle, avec un tableau qu'il remplissait constamment avec des dessins. Et donc là, j'ai trouvé un lien entre mes préoccupations pour la notion de système linguistique et puis la représentation visuelle. Et je crois que c'est là aussi le lien avec les mathématiques, c'est que la géométrie, c'est visuel, etc. Donc il y a des sortes d'affinités comme ça qui se recoupent et qui font que l'on s'oriente dans certaines directions.
C'est la clé de votre travail, conceptualiser des idées, c'est un grand pari. Comment est-ce que nous pourrions l'expliquer aux internautes qui nous écoutent ? Donner une idée de votre travail, de la conceptualisation des idées.
Et vous employez le mot de conceptualisation qui est important.
Est-ce que c'est le bon mot d'abord ?
Oui, absolument.
Peut-on l'expliquer, peut-être ?
Quand on a des idées en tête, comme on dit, eh bien, on en a énormément, on n'a pas de forme. Et conceptualiser, eh bien, c'est sélectionner de cet ensemble, de ce magma, des éléments, des relations, des schémas qui font qu'on a envie de dire quelque chose. Et ce que l'on a envie de dire, c'est ce qu'on appelle en fin de compte des événements. Aussi bien dire le ciel bleu qu'il y a eu un accident dans la rue, que j'ai trop chaud, ce sont des événements qui sont tous conformes, dans ce cas présent, à la langue française. Alors il faut se demander qu'est-ce qu'il y a derrière de commun. Est-ce que j'ai été obligé de le dire comme ça ? La réponse est non. C'est-à-dire que le sujet parlant, quand il a une idée en tête, a toujours plusieurs solutions. Alors il y a la meilleure ou la moins bonne, il y a le mot juste, comme on dit, et la façon plus détournée, il y a les périphrases, enfin... On dit aussi, on veut tourner autour du pot. C'est une très bonne métaphore. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à choisir exactement ce qu'il faut, mais qu'à force d'approches successives, on finit par trouver le noyau qui est là. Enfin, ça, c'est un exercice constant, intellectuel, que tout le monde fait, souvent sans s'en rendre compte. Et le linguiste est là pour essayer d'expliciter ce qui est caché en nous. Voilà.
Lorsqu'on vous connaît, on vous voit tout le temps avec un stylo à la main, un papier, un crayon. Est-ce que tous les linguistes pratiquent la même chose ? Est-ce que c'est devenu naturel chez vous ?
Ah oui, ça c'est un besoin. Un besoin parce qu'on parle par exemple de métaphores. La métaphore, les gens pourront, avec des mots de la langue, parler des métaphores. Mais en fait, ce sont souvent des métaphores liées à la visualisation. Et à ce moment-là, pourquoi ne pas les dessiner ? D'autre part, il y a un autre type de collègues, groupe de collègues qui visualisent, ce sont les mathématiciens préoccupés du langage. Il y en a plusieurs. Alors, pour eux, ils appellent ça la topologie. C'en est, si vous voulez, mais ça montre bien qu'on dessine dans l'espace des approches, des contacts, des éloignements. Quand vous allez au cinéma, vous allez au cinéma, vous entrez dans la salle, vous restez dedans, vous en sortez, vous en éloignez, tout ça, ça peut se dessiner, très simplement. Vous faites un rond et puis des approches et des éloignements. Alors ça, c'est une chose simple. Et à partir de là, on voit que de nombreux événements vont se développer de cette façon-là. Et alors après, ça prend en linguistique, alors des noms savants, comme l'aspect, etc., la modalité, enfin des choses comme ça.
Et donc, est-ce qu'on peut tout mettre en forme et en dessin ?
Alors, je dirais, oui, c'est une question qui a été posée. J'ai eu des critiques qui ont dit, ah, comment est-ce que le verbe « pouvoir » peut se dessiner ? Bon, eh bien, qu'est-ce que c'est que « pouvoir » ? Pouvoir, c'est avoir une envie de et aller jusqu'à un terme. Si je dis « je peux ouvrir la porte », ça veut dire que j'ai une envie, un désir, c'est une flèche qui va vers quelque chose, un événement, et cet événement, il est réussi, puisque je peux. Si je dis « je veux », c'est le même mouvement, mais qui ne va pas jusqu'au bout. Donc, vous avez une petite flèche avec des pointillés après, « je veux », c'est orienté, une direction, « je peux », »,« je vais jusqu'au bout ». Ensuite, je regrette. Vous ne pouvez regretter que ce qui a eu lieu. Il n'y a pas un regret sur l'avenir, toujours un regret sur le passé. Donc, de l'autre côté de la limite, vous avez une autre flèche qui va dans l'autre sens pour le regret, etc. Donc, même des concepts très abstraits, en fin de compte, je dirais, ont intérêt à se visualiser d'une façon simple. C'est ça qui est important.
Donc, tout votre travail, au fond, repose sur la représentation de la manifestation d'une idée ?
Oui, des idées, des liens entre les idées. On comprendrait bien que cause et conséquence sont faciles à dessiner. Il y en a un qui est avant et l'autre qui est après. Il y a un ordre des choses, il y a un ordre de pensée, etc.
Y a-t-il une utilité
Je
pense à la communication.
J'ai été professeur de lycée pendant 10 ans.
Vous avez démarré comme professeur
d'espagnol. L'espagnol et j'enseignais entre autres le système des prépositions de cette façon-là. Les prépositions spatiales, temporelles, etc. Les collègues qui ont des langues où il y a des cas, comme l'allemand, eh bien, ils peuvent aussi faire des petits dessins très bien dans ce domaine-là. Ça aide. Beaucoup d'enfants comprennent, voient les choses et les comprennent très bien.
Monsieur Potier, est-ce qu'on utilise toujours des dessins lorsqu'on est linguiste ? Est-ce qu'on n'étudie pas seulement la langue ? Pourquoi compliquer les choses, au fond ?
Oui, alors moi je dirais, c'est pourquoi ne pas les simplifier ? Parce que commenter la langue, c'est employer des mots, après des mots, encore des mots, et à la fin, le récepteur, vous en l'occurrence en ce moment, vous êtes obligé de reconstituer du sens à partir de 20, 30, 40 mots que je mets. Quelquefois, il est beaucoup plus simple de dessiner l'essentiel, un parcours, si vous voulez. On va d'un point à un autre. On a, pour un raisonnement par exemple, eh bien, on aura un point de départ, un cheminement et un point d'arrivée. Eh bien, au lieu de raconter tout cela, on peut très bien faire un petit dessin. Et à ce moment-là, l'intérêt, c'est de montrer qu'à chaque lieu de ce dessin, j'aurais pu avoir d'autres choix. Par exemple, permanent, stable, rester, indique la même chose, mais avec des choix. Alors ces choix, nous passons notre temps à choisir quand nous parlons. Alors nous ne nous en rendons pas compte parce que nous sommes très rapides, très inconscients, heureusement, de ce que l'on fait, mais en fait, on voit ça quand plusieurs personnes parlent de la même chose, ou bien on voit ça aussi dans les traductions, puisque la traduction, c'est conserver l'idée indépendamment de la langue. Donc c'est un très bon exercice pour montrer quel est le sens à conserver, c'est-à-dire le noyau, souvent dessinable à conserver à travers des traductions. Voilà.
Est-ce que votre travail permet une meilleure communication ? D'une manière générale, est-ce que cette façon de faire peut permettre à chacun de mieux communiquer et de permettre un meilleur échange humain ?
Là, c'est peut-être moins évident parce que la communication correspond à un pouvoir personnel d'expression, de clarté, de temps. Par contre, pour l'enseignement, oui. La communication dans l'enseignement, là, je crois qu'elle est très aidée par ce type de représentation visuelle, conceptuelle, et le facteur temps est fondamental. Gustave Guillaume disait toujours « il faut du temps pour parler, du temps pour concevoir, et pendant ce temps, il se passe des choses ». Et il parlait d'opérations de pensée. Ça a l'air abstrait, mais en fin de compte, si on essaie de suivre ces opérations de pensée, on verra que dans la langue, eh bien, on applique les systèmes, système verbal, système nominal, système des relations, etc., système modal, qui convergent vers une expression qui est unique. Les phrases que j'ai dites jusqu'à présent sont uniques. C'est-à-dire qu'on ne les a jamais dites de cette façon-là, mais en même temps, les idées, évidemment, sont connues. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de derrière qui est commun, heureusement, et qui peut toujours, selon l'individu, être réalisé de façon propre. C'est ce qui fait aussi pour les littéraires, la stylistique, la réussite littéraire, etc. Les idées ne sont pas toujours totalement nouvelles, mais elles sont bien dites. Qu'est-ce que c'est que bien dire quelque chose ? Eh bien là, le linguiste s'intéresse aussi à cela. Ce sont les distances par rapport à ce qui serait un énoncé purement de chimie. Eh bien non, on peut faire une chimie poétique, c'est-à-dire montrer qu'à partir de chaque élément, on peut l'entourer, l'englober, le modéliser. Et la modélisation, c'est l'expression du je, du soi dans le discours.
En dehors de Gustave Guillaume, avez-vous d'autres influences, d'autres personnes que vous avez admirées ?
Un mathématicien, c'est René Thom, qui a été médaille Fields de mathématiques et qui, lui, s'est intéressé à la linguistique. Et dans un de ses livres d'il y a maintenant 40 ans, il faisait des petits dessins extrêmement simples à côté de formules algébriques très compliquées. Alors c'est là, il y avait des x4, des x3, des x2, etc. Mais en même temps, des petits dessins très simples, qu'est-ce que c'est que commencer, qu'est-ce que c'est que continuer, qu'est-ce que c'est que s'arrêter, que finir, que mourir, que vivre, etc., que se disjoindre, que se conjoindre, et voilà des notions fondamentales. Et à partir de là, eh bien, il montrait que ceci s'appliquait, mettons, au verbe. Je prends l'exemple sur le... Vous êtes à Roissy, vous avez un avion qui décolle, eh bien, vous avez une base, vous avez un avion qui décolle, qui s'éloigne, donc deux traits qui se dispersent. Pendant un certain temps, l'avion va voler, puis ensuite, il va se reposer, décoller. Ensuite, vous direz, tiens, voilà un papier qui atterrit sur mon bureau. Ben, c'est la métaphore. De atterrir, on conserve la jonction de deux éléments qui s'appliquent ensuite à n'importe quoi. Donc, n'importe quelle vision peut être métaphorisée et c'est un enrichissement de la langue.
Est-ce que votre discipline dérive quelquefois sur votre quotidien ?
Quand j'étais étudiant, j'avais un petit carnet, je prenais le métro, j'avais un petit carnet, je notais des choses comme ça. Il y avait des réclames, par exemple, domaine publicitaire. Il y a souvent des réussites. Alors, pourquoi est-ce qu'une publicité réussit ? Elle a trouvé une façon de dire les choses originale. Et à ce moment-là, qui tire un peu sur la norme, mais de quelle façon, pourquoi, comment, etc. Donc la linguistique, elle est partout.
Merci beaucoup, professeur Poitier.